Chapitre 7. Bouillonnant de rage, Simon reprit seul le chemin du supermarché. Hardy Hall était l'enquête la plus importante et ce godelureau qui venait à peine de débarquer n'aurait jamais dû être autorisé à s'en occuper. D'autre part, Simon avait bien dû s'avouer qu'il se couvrait de ridicule en courant désespérément après Alice. Aussi recommençait-il à penser à Tony. Et ce matin, dans son pull rouge cerise, elle lui avait semblé particulièrement jolie. C'était également l'avis de Jake, qui trônait avec satisfaction dans la petite voiture de Tony, à côté d'elle. La journée était belle et ensoleillée, et les feuilles multicolores de l'automne dansaient devant eux sur les routes de campagne. « J'ai passé une super soirée avec la patronne hier, » dit-il. « Elle a vraiment la classe. C'est la première fois que je rencontre une femme de ce calibre. J'aime qu'une femme se maquille et mette du parfum français. Elle est tellement féminine. Nous sommes tous très attachés à Agatha et nous la protégeons de notre mieux. Elle s'est fait avoir par quelques sales types auparavant et nous nous efforçons de lui éviter d'autres aventures douloureuses. Je n'irai pas jusqu'à traiter Charles de sale type. Je ne pensais pas à lui. Agatha aurait peut-être sa chance si elle ne se lançait pas sans arrêt dans des histoires impossibles. Tu roules trop vite, remarqua Jake. Désolé. Tony s'aperçut qu'elle était en colère. Jake la complexait. Il était issu d'un milieu chic, visiblement passé par les écoles privées les plus courues et très beau. Tony était habitué à ce que les hommes s'éprennent d'elle. Et cet Adonis divaguait à propos d'Agatha. Agatha, entre toutes. Était-ce parce qu'il la trouvait vulgaire, elle, Tony? Ce fut alors que son sens de l'humour vint à la rescousse. Elle songea qu'elle n'était pas loin d'être jalouse d'Agatha. Quelle franche rigolade! Et elle se surprit à lui demander s'il avait une petite amie. Pas pour le moment. C'est difficile de trouver l'âme sœur. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis là, moi, pensa Tony avec un regain d'irritation. Peut-être que j'aurais dû vivre à une autre époque, disons, au début du siècle dernier. J'aurais pu aller à Paris et m'envoyer en l'air avec une courtisane expérimentée. On peut se payer une prostituée tout aussi facilement à Londres aujourd'hui. Ce n'est pas pareil. Les grandes cocottes étaient éduquées pour briller au salon comme dans l'alcôve. Elles savaient amuser et charmer, discuter politique et littérature, etc. Je m'ennuie vite, moi. Et avec Agatha, on ne s'ennuie pas une minute. Tu n'envisages quand même pas de t'offrir une petite aventure avec elle, j'espère, s'exclama Tony. Elle gara brusquement la voiture sur le bas-côté et fit face à Jake. Pourquoi pas? Elle est célibataire. Écoute. Pour toi, il ne s'agit peut-être que d'une occasion de t'envoyer en l'air, selon ton élégante formule. Mais Agatha pourrait tomber amoureuse de toi, et l'amour, ça vous engage. Ça devient trop sérieux pour moi. Ne t'inquiète pas, ce boulot me plaît beaucoup trop pour que je prenne le risque de tout foutre en l'air bêtement. D'accord? Très bien, fit Tony en redémarrant. On commence par le château, histoire de te mettre un peu dans le bain. Je te préviens que Damian est efféminé et un peu bizarre. En fait, ils sont tous bizarres. La fille Andrea est la seule qui regrette réellement Lord Bellington. L'ex-épouse est une ancienne alcoolique, ex-droguée, tout juste sortie de désintoxication. Une autre excentrique. Ils se signalèrent à l'entrée et remontèrent l'allée. Nous avons une propriété un peu de ce type à la campagne, dit Jake. Papa aime bien jouer au châtelain. Tu as perdu ta mère? Oui. Elle avait la manie des bonnes œuvres. Association féminine, Ligue pour la défense du patrimoine rural, etc. Elle faisait partie d'un tas de comités. Je ne la voyais presque jamais. Pour moi, ça a été nounou, gouvernante, puis pensionnat. Quand elle est morte d'un cancer, c'était devenu une étrangère pour moi, juste une bienfaitrice anonyme. Ça ne t'a pas du tout affecté? Questionna Tony en s'arrêtant devant la maison. Pas vraiment. Enfin, je ne sais pas. Pas le temps d'y penser. Avec papa qui me catapultait en permanence d'un boulot à l'autre. J'aurais dû lui tenir tête avant d'en arriver là, le pauvre vieux. Il ne doit pas se sentir tellement bien dans sa peau. Enfin, allons jeter un coup d'œil sur cette faune. Damian les accueillit avec ravissement. Quel bonheur! Moi qui aime tellement les belles personnes. J'ai lu vos exploits dans les journaux. Cette histoire de diamants dans les meubles. Si seulement on pouvait en trouver un ou deux dans les miens. Tiens! « Andrea, qu'est-ce que tu veux ? Dire bonjour à nos hôtes ?» répliqua Andrea en dévisageant Jake. « Ça te dérange ?»«
Non, mais c'est nouveau. »« Ah, asseyez-vous. En quoi puis-je vous aider ?»
La femme de chambre, enfin la précédente, a soutenu, avoir surpris Lady Bellington à la cave avec une seringue, attaqua Jake, qui avait consulté le dossier.
C'est un mensonge, on vous l'a déjà expliqué.
Voulez-vous inspecter les caves ? Proposa Andrea.
Oui, ce serait formidable, acquiesça Jake en se levant d'un coup.
Tu viens, Tony ? Pas besoin de vous déranger tous les deux ?
Elle va le dévorer tout cru,
se gaussa Damian quand ils furent sortis.
Oh, mère, qu'est-ce qu'il y a ?
J'étais à la fenêtre du petit salon quand j'ai vu arriver le plus exquis des jeunes gens, un ami à toi.
Non, un autre détective. Andrea l'a entraîné à la cave, d'où il risque fort de ne jamais remonter.
Mieux vaut que j'aille au secours de ce pauvre garçon.
Et nous voilà seuls,
dit Damian à Tony avec un sourire malicieux. Nous sommes en train d'enquêter sur un meurtre, et pourtant, vous semblez traiter tout cela comme une vaste plaisanterie.
Sans cela, je deviendrais aussi cinglé que le reste de la famille.
Le soleil scintillait à travers le lierre qui masquait à demi la fenêtre, bigarrant d'ombre et de lumière le visage de Damian. Ce lierre, remarqua Tony, vous n'avez jamais envie de le faire tailler ? Il assombrit tellement les pièces.
Le régisseur s'en occupera un de ces jours. Voulez-vous m'épouser ?
Pardon ?
Je vous demande votre main. Réfléchissez-y. Fini les crimes sordides à élucider.
Mais vous ne me connaissez même pas.
Pas la peine. Vous êtes jeune, jolie, et vous fabriqueriez d'adorables bébés.
Revenons-en à nos moutons, coupa sèchement Tony. Si Mrs. Bull affabulait lorsqu'elle racontait avoir vu Lady Bellington à la cave avec une seringue, pourquoi a-t-elle atterri au fond d'un puits?
Parce qu'elle gardait probablement en réserve quelques ragots particulièrement venimeux. Ah, vous vous dites que ça doit être ces gredins d'Aristo?
Complètement faux. C'est ce village qui est pourri. Allez retourner quelques pierres là-bas. Mère a un alibi en béton. Elle était en cure de désintoxication ou dans un foyer pour paumés. Appelez ça comme vous voudrez. Tony patientait dans sa voiture en se demandant si elle devait retourner secourir Jake quand il réapparut et se laissa tomber sur le siège à côté d'elle. Tu sais, ces gens-là sont tellement dérangés qu'en fait, tu finis par penser que c'est toi qui ne tournes pas rond. Qu'est-ce qui s'est passé à la cave ?
Andrea m'a mis la main aux fesses.
La mère a débarqué, lui a dit d'arrêter, m'a prié de faire ce que j'étais censée faire et rester plantée là, les bras croisés, à me regarder, pendant qu'Andrea remontait en traînant les pieds. Il n'y avait pas d'autre solution que de battre en retraite. Oh ! Bon, eh bien, allons voir si nous aurons plus de chance qu'Agatha avec Humphrey Sanders à Peartree Cottage. C'est lui qui était le plus véhément quand Bellington a augmenté les loyers. Drôle d'endroit, commenta Jake quand ils pénétrèrent dans le village. Pas de magasin, pas de pub, juste une église. Oh, regardez, un enterrement.
Ne me dites pas que Mémé Boule a passé l'arme à gauche.
C'est un peu tôt. Elle était encore vivante ce matin. Allons jeter un coup d'œil. Elle gara la voiture sur la place du village et tous deux se dirigèrent vers l'église d'où l'on sortait justement le cercueil pour l'inhumer dans le cimetière contigu. Je vais voir ça, dit Tony. Je croyais qu'on n'enterrait plus les gens depuis longtemps dans ces vieux cimetières. Ce sont des gens de la basse église, remarqua Jake. Qu'est-ce que c'est que ça? Des anglicans sans cloche ni en sang. La haute église était considérée comme trop papiste. À quoi reconnaît-on qu'ils sont de la basse église?
Ils portent des manteaux de couleur, pas de chapeau tarabiscoté, pas de vêtements de deuil noir.
Quand ils entrèrent dans le cimetière, une femme les aborda pour leur demander s'ils étaient des amis de la défunte. Non, répondit promptement Tony, pressentant soudain que Jake s'apprêtait à débiter un mensonge. Nous sommes détectives. Ah oui, c'est pour cette pauvre Mrs. Bull. Elle s'accroche toujours? En effet, elle s'accroche. Nous nous excusons pour cette intrusion. C'est que le rituel des funérailles traditionnelles est si beau, expliqua Tony. Je vous en prie, restez donc. C'est une cérémonie festive, d'une certaine manière. C'est ma mère que j'enterre. Elle était odieuse. Et ils arrivèrent à temps pour entendre le pasteur psalmodier pendant que l'on descendait le cercueil.
Allez en paix, Mrs. Marmelade. Vous avez une longue vie bien remplie et vous demeurerez désormais parmi les anges.
« Où est passé l'homme qui est né de la femme ?» chuchota Jake un peu trop haut. Un individu trapu debout devant eux se retourna et réduisit Jake au silence en le foudroyant du regard.
« Vous nous manquerez beaucoup, et spécialement à votre fille Cassandra.
Nous vous disons tous adieu, conclut l'officiant.
Très décevant, glissa Tony à Jake. Ça a plus de panache à la télé.
La femme, qui les avait précédemment abordés, les rattrapa au moment où ils quittaient le cimetière.
Je suis Cassandra Marmalade. Quelques rafraîchissements ont été prévus dans la salle des fêtes du village. Joignez-vous à nous.
Toutes nos condoléances pour votre mère, dit Jake.
Alors vous devez bien être les deux seules personnes dans tout le vaste monde à le penser. La salle est juste là-bas.
Elle a des intonations distinguées, remarqua Tony en la suivant des yeux.
Une déclassée, tu crois? Je n'ai pas vu de grande demeure dans ce hameau perdu.
Il y en a une juste derrière les arbres, tout au bout là-bas. On aperçoit les cheminées qui dépassent.
Alors pourquoi ne reçoivent-ils pas là?
Trop de monde, peut-être.
Voilà des tas de gens qui arrivent, et beaucoup n'ont même pas assisté à la célébration.
Un grand brouhaha les accueillit quand ils entrèrent dans la salle.
« Buvez donc un coup de cidre, mes enfants !» leur proposa une petite femme. « Le meilleur de tout le comté. On peut être fiers de notre Humphrey. »
« Serait-ce Mr. Sanders ?»«
Oui, c'est bien lui, là, à côté du tonneau cerclé. »
« Je ne sais pas si nous pouvons le questionner ici, » remarqua Tony. « Il vaudrait mieux attendre un peu. Essayons la vieille Mrs. Ryan, du côté des jardins ouvriers. »«
Tony !» implora Jake. « Les friands aux saucisses ont l'air succulents et je meurs d'envie de goûter ce fameux cidre. »«
Oh bon, une chope chacun et puis on s'en va. »«
Merci maman, tu vas chercher les friands et moi le cidre. »
Quand Jake revint avec le cidre, il trouva Tony avec une assiette en carton garnie de 4 gros friands.
« Emportons tout ça dehors, » suggéra-t-il.
Ils allèrent s'asseoir sur un muret près de la salle et tombèrent d'accord sur la qualité du breuvage.
« Cet endroit a quelque chose d'inquiétant, » affirma Jake en regardant autour de lui.
« Qu'est-ce qui te fait dire cela ?»
C'était une journée d'automne ensoleillée, des canards voguaient placidement sur l'étang, les branches d'un saule se balançaient au gré des rafales, semant au vent ses feuilles pareilles à de petits disques d'or.
« Je ne sais pas, juste une impression.
Je me demande si nous ne devrions pas rester encore un moment pour tâcher d'échanger quelques mots avec Miss Marmalade. »
Peut-être que sa franchise décapante à l'égard de sa mère s'appliquera aux autres personnes du coin.
Jake détaillait Tony du coin de l'œil. Elle était vraiment très belle, avec un je ne sais quoi de frais et de pur. Il se demanda si elle était vierge et balaya cette idée. Cela n'existait plus, du moins plus chez les filles de plus de 18 ans.
Tony avait légèrement bouclé sa crinière blonde qu'elle portait d'habitude lisse et l'avait attachée sur sa nuque à l'aide d'un pimpant ruban écossais. Elle tourna brusquement la tête vers lui et leurs deux regards bleus se croisèrent longuement. Une délicate rougeur colora le visage de Tony, tandis que Jake contenait de son mieux une subite exaltation.
« Je suis amoureux, » se dit-il. « Je n'ai rien ressenti de tel depuis... Zut, comment s'appelait-elle déjà ? Mais ce n'était sûrement pas pareil. »
Tony tressaillit légèrement et déclara énergiquement.
« Je crois que nous avons assez bu comme cela. Il y a de plus en plus de vacarme ici et ça risque fort de ne pas s'arrêter de sitôt. Allons rendre visite à Mrs. Ryan et nous essaierons Cassandra plus tard. »
Ils jetèrent consciencieusement l'assiette en carton à la poubelle, rapportèrent les chopes et remontèrent dans la voiture de Tony.
« Nous y voici, » annonça-t-elle en s'arrêtant devant la maison de Mrs. Ryan. On peut dire qu'elle a une excellente vue sur les parcelles. Mais ils eurent beau sonner et frapper, personne ne répondit.
Si c'est une vieille dame, elle fait peut-être la sieste, avança Jake.
Comme elle peut tout aussi bien être en train de siffler du cidre à la veillée funéraire. Mais je crois que dans l'église anglicane, on n'appelle pas ça comme ça.
Non, on se contente de marmonner poliment. Un buffet vous attend au Georges, ou n'importe où ailleurs. D'habitude, c'est réservé à un cercle restreint d'invités triés sur le volet. Mais je suppose que dans un aussi petit village, tout le monde y va.
Dis, est-ce que tu as un copain? Je n'aime pas les questions personnelles.
Une fille splendide comme toi en a forcément un.
Veux-tu m'épouser?
Espèce d'idiot, fit Tony dans un éclat de rire.
Allons, laisse-moi plutôt regarder si nous avons d'autres gens sur la liste.
Ah, Mary Feathers, présidente du comité d'attribution des jardins ouvriers.
C'est tout prêt. Essayons, et si elle n'est pas là, nous irons vérifier si Mrs. Ryan et elle ne sont pas à la réception. Agatha a noté « vieille peau » à côté de son nom.
Mais Mary était chez elle.
Deux beaux détectives,
s'exclama-t-elle quand ils se furent présentés.
« Entrez, je vous en prie. Avez-vous été à la salle des fêtes ? Presque tout le village doit y être pour les funérailles de la vieille Mrs. Marmalade. »
Tony remarqua avec un pincement de jalousie que Jake contemplait Mary d'un œil admiratif. Mais elle se rappela sévèrement que Simon lui avait déjà causé bien assez d'ennuis. Mieux valait ne pas mélanger amour et travail.
« Nous y sommes passés, » dit Jake. « En fait, nous comptions rendre visite à Mrs. Ryan, mais elle n'est pas chez elle. »
« Vous cherchez à découvrir l'agresseur de cette pauvre Mrs. Bull.
Je ne sais pas pourquoi je la qualifie de pauvre, à vrai dire, car c'était la médisance incarnée.
Comment parvenait-elle à débusquer autant de sujets de commérage ? C'est un mystère pour moi.
Je me demandais si cela pouvait être lié au jardin potager. On croirait qu'il faut ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens, dit Tony.
Mon petit... En matière de querelle, les Hatfields et les McCoys n'ont rien à envier à nos cultivateurs amateurs.
Ils veillent si jalousement sur leurs champs qu'à chaque fois que le vent y charrie la moindre graine de chardon venue des parcelles ouvrières, ça devient une affaire d'État.
Comment se fait-il qu'une personne aussi belle et aussi calme que vous se trouve à la tête de ce comité ? S'étonna Jake.
Vous êtes adorable, mon chou.
Simplement parce que j'ai été élu à l'unanimité ?
Voyez-vous, je ne me dispute avec personne. Je me contente d'écouter.
Voulez-vous du thé ou du café? Ou je peux aussi vous offrir du vin de pissenlit maison?
Comment faites-vous ça?
C'est très simple. Des pétales de pissenlit, du sucre, des oranges, de l'eau et de la levure de bière. Il faut absolument que vous y goûtiez.
Mary sortit. Jake se laissa aller au fond du canapé, les mains croisées derrière la tête, ses longues jambes étendues devant lui, et prononça rêveusement.
Sa voix est aussi onctueuse que la crème fouettée. Je pourrais passer ma journée à l'écouter.
Et moi je pense que nous perdons notre temps, rétorqua sèchement Tony.
Si tu veux parler à Cassandra, il faudra bien attendre un peu.
Mary revint avec une carafe et des verres. Jugeant qu'il ne faisait pas très chaud dans la pièce, elle se pencha sur l'âtre, enflamma une pile de petits bois et jeta quelques bûches dans la flambée. Et maintenant, dit-elle en remplissant trois verres, « voilà le breuvage de l'été. »
« C'est délicieux !» commenta Jake après avoir savouré sa première gorgée, tandis que Tony elle-même s'exclamait « vous pourriez en vendre !»«
Je suis trop paresseuse. J'ai une certaine tendance à hiberner dès que l'automne arrive, quand il n'y a pas grand-chose à faire sur les parcelles. » Pour en revenir à la vieille Mrs. Marmalade, elle faisait vivre un véritable enfer à Cassandra. Elle l'utilisait comme bonne à tout faire et comme dame de compagnie.
Elle possède une grande maison, connue comme la résidence de l'amiral, quoiqu'il n'y ait jamais eu un seul marin chez les Marmalade. Tout le monde se figurait que la mère Marmalade durerait éternellement.
« De quoi est-elle morte ?» demanda Tony.
« Une chute dans l'escalier. »
« On l'a poussée ?»«
Sûrement pas, ma biche. Cassandra n'a jamais eu une once de courage. »
Sans y prendre garde, ils se laissèrent resservir. Le jour déclinait et Mary alluma une lampe à pétrole à l'ancienne posée sur un guéridon près de la fenêtre. Le feu pétillait. Un gros chat noir se glissa dans la pièce et se roula en boule devant la cheminée. Les yeux de Jake se fermaient et un demi-sourire flottait sur son visage.
« Elle est en train de nous hypnotiser, » pensa Tony.
« Jake, il faut y aller, » lança-t-elle en se levant vivement.
« Oh, tu crois ? Merci pour le vin, Mary.
Revenez quand vous voudrez. »
La sonnette retentit. Mary alla ouvrir et ils lui emboîtèrent le pas. Charles Fraiss se tenait sur le seuil de la porte.
« Qu'est-ce que vous faites là ? » demanda Tony.
« Je m'occupe de mes affaires, je ne vous retiens pas. »
« Agatha ne nous fait donc pas confiance ?» maugréa Tony une fois dehors.
« Ce n'est pas ça qui l'amène. » C'est un rendez-vous amoureux, ce n'est pas moi qui lui reprocherais.
Et dire qu'il me demandait en mariage tout à l'heure, pensa Tony. Les hommes et la constance, ça fait deux.
Essayons cette Lady Marmalade, proposa Jake.
C'est étonnant quand même que les gens s'accrochent comme ça à des noms pareils. Aux abords de la salle des fêtes, ils croisèrent quelques villageois attardés qui leur indiquèrent la grande demeure cachée derrière les arbres que Jake avait repérée plus tôt. Deux piliers de pierre marquaient l'entrée d'une courte allée bordée de massifs de rhododendrons et de lauriers, ainsi que de deux hauts araucarias. La maison, une vaste bâtisse de pierre grise, devait avoir été construite au tout début du XXe siècle, sous le règne d'Édouard VII, supputa Jake. Sa seule originalité consistait en de terrifiants mascarons qui grimaçaient hideusement au-dessus des fenêtres du premier étage. « Quelle horreur !» s'exclama Jake en les désignant. « Est-ce une vengeance des maçons mal payés, à moins que la famille ne soit atteinte de folie héréditaire ?» L'héritière semblait plutôt saine d'esprit. Tony appuya sur un énorme disque de porcelaine blanche portant l'inscription « Sonnette » en lettres noires fixée sur une plaque de cuivre. Une petite femme replète, à la mine acariâtre, leur ouvrit en aboyant.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
Tony comprit que si elle faisait état de leur qualité de détective, la femme leur claquerait la porte au nez.
« Miss Marmalade souhaitait nous parler après l'enterrement. »«
À quel sujet ?»«
Écoutez, » intervint Jake d'un ton hautain. « Contentez-vous de faire votre travail et dépêchez-vous d'aller l'avertir. »«
Ne restez pas là, bâilla Corneille. Allons, pressez-vous. »«
Inutile d'être insolent, jeune homme !»
répliqua-t-elle. Mais elle disparut dans les ténèbres de l'entrée, laissant la porte ouverte.
« Tu as été rudement grossier ?» remarqua Tony.
« Je sais. C'est la seule chose que les petites tyrans de son espèce comprennent. » Cassandra apparut.
« Ah, les beaux détectives ! Entrez, entrez ! Mrs. Terry, du thé, s'il vous plaît !» et quelques-uns des gâteaux qui restent de l'enterrement.
Vous devriez être en train de vous reposer, et pas autre chose. Du thé, alors que votre pauvre maman n'est même pas encore froide dans sa tombe.
Bien au contraire, elle est morte la semaine dernière. Je suis certaine qu'elle a eu le temps de refroidir. Apportez-nous le thé. Une parfaite mégère, commenta Cassandra en leur ouvrant la porte. Asseyez-vous, je vais allumer le feu. Figurez-vous qu'il n'y a pas de chauffage central. Maman n'en voulait pas. « Vous allez pouvoir le faire installer maintenant, » répondit Tony avec sympathie.
« Pas question de dépenser un centime pour cette maison. Je vais la vendre et partir dans le sud de la France ou ailleurs, du moment qu'il y a du soleil et des croissants. »
Cassandra avait un long visage de statue médiévale et des yeux gris pâles aux lourdes paupières. Elle devait approcher de la soixantaine, estima Tony. Un roulement sourd et un bruit de tasses de porcelaine, qui s'entrechoquent, annoncèrent l'arrivée de la collation. Mrs. Terry fit son entrée derrière une grande desserte d'acajou chargée de boîtes à thé, de pots d'eau bouillante et de lait, de sucre et de gâteaux.
« Merci, vous pouvez nous laisser, » la congédia Cassandra.
« Et maintenant, thé indien ou thé de Chine ?»«
Indien, » répondit Jake.
« Pour moi aussi, » se hâta d'ajouter Tony, qui ne connaissait guère cette denrée qu'en sachet.
« Voudriez-vous allumer le feu, jeune homme ?»
J'aurais pu demander à cette assommante créature, mais elle aurait gémi à n'en plus finir qu'on n'en faisait jamais avant la mi-novembre.
Tandis que Jake s'exécutait, Tony, fasciné, regardait Cassandra mesurer les cuillerées de thé, les verser dans une théière en argent et ajouter de l'eau frémissante. Puis elle choisit une autre boîte et réitéra l'opération avec un second récipient d'argent.
« Je préfère le thé de Chine », expliqua-t-elle à Tony.
« Nous avons pensé que quelqu'un de votre stature, sorte d'aristocrate local, avança prudemment Tony, pouvait être une bonne observatrice. »«
Oh, dites-le franchement !» répliqua Cassandra d'un ton acerbe.
« La vieille fille de la paroisse !»«
J'ai juste eu l'intuition que vous étiez d'une intelligence supérieure à la moyenne, » répondit Tony, que cette idée n'avait jamais effleuré mais qui souhaitait rattraper son impair.
« C'était le cas, jadis. J'avais obtenu une bourse à Oxford, mais mon père est mort. » Et ma mère est devenue définitivement invalide. J'adorerais papa. Je ne me suis jamais remise de sa mort et je suis devenue une pauvre idiote de dame de compagnie. »
Elle versa le thé dans une tasse de porcelaine aussi fine qu'une coquille d'œuf.
Du lait et du sucre?
Un nuage de lait et un morceau de sucre.
Et vous, jeune homme?
Pas de lait et quatre morceaux,
répondit Jake, qui s'accroupit un instant pour admirer les flammes avant d'aller rejoindre Tony sur le canapé. Des portraits ornaient les murs. Le mobilier était massif et de style victorien, excepté un superbe piano à queue.
« Ce sont vos ancêtres ?» demanda Tony.
« Oh non, on les a achetés avec la maison. Grand-père a fait fortune dans le Yorkshire. Il possédait plusieurs filatures. À sa mort, papa a tout liquidé et placé l'argent. » Il n'a jamais travaillé de sa vie, à dire vrai. Il ambitionnait ouvertement d'appartenir à la haute, et c'est pourquoi il a acquis en bloc la maison et ses ancêtres
avant d'épouser maman, qui est apparentée au comte d'Empoiseur, même si cela ne représente qu'un minuscule rameau sur l'arbre généalogique d'une famille qui n'a jamais témoigné la moindre envie de la connaître. Naturellement, vous souhaitez des renseignements sur ce village et sur l'agresseur de Mrs. Bull. L'ennui, c'est que cette femme est tellement odieuse que ça pourrait être n'importe qui. En fait, c'est avec Mrs. Ryan que vous avez les meilleures chances. Nous avons essayé, mais elle n'a pas répondu, dit Jake. Je crois qu'elle fait la sieste l'après-midi. C'est une observatrice très perspicace. Prenez un morceau de gâteau. Puis-je passer aux toilettes ? Demanda Tony. Bien sûr, au premier, juste en haut de l'escalier. Tony monta l'escalier de chêne. Une maison pleine de tristesse, pensa-t-elle. Il n'y avait pas de tapis et les marches brillaient, bien cirées. Elle avait presque atteint le palier lorsqu'elle remarqua un scintillement ténu dans la pénombre. Elle se pencha. On avait enfoncé un clou sur le côté et le nœud d'une cordelette y était encore fixé. Est-ce cela qui avait causé la chute de la vieille dame ? Se demanda Tony. Dois-je le signaler ? Vais-je infliger une enquête policière à cette femme tout juste libérée des griffes de son horrible mère ? Mais quand elle redescendit, elle savait qu'elle ne le ferait pas. Quand elle rentra dans la pièce, Cassandra riait aux éclats, amusée par un bon mot de Jake. « Il se fait tard, dit Tony. Nous devons partir. Merci beaucoup pour le thé. Revenez quand vous voulez, même si je risque de ne plus être là. Sitôt débarrassée de cette maison, je quitterai le pays. » J'ai oublié quelque chose. Attends une seconde, lança Tony à Jake alors qu'il montait en voiture. Elle courut à la porte et sonna. Cassandra lui ouvrit et Tony lui chuchota précipitamment. Il y a un vilain clou qui dépasse en haut de l'escalier. Allez chercher des tenailles et arrachez-le vite avant que Mrs. Terrine le voie. Oh, merci, répondit Cassandra posément. Comme c'est curieux, je ne l'avais jamais remarqué.